C'est mieux là, non?
Ah, parce que vous êtes rabat-joie, vous?
Ah non, mais rien à voir, mais c'est pour bosser, c'est mieux si on s'entend penser, non?
Attends, depuis quand on pense dans ce bureau là?
Non, mais je travaille là, mon petit, je travaille, allez! Ouais, voilà! Mais... She runs
all the open. Oh, mais ça se trouve, Charline, elle vient vraiment de passer 3 semaines à Ibiza.
Non, mais ça se trouve, même, c'était elle, le DJ au mariage de Blanquer.
Eh oh, respectez-moi un peu là.
Ouais, mais moi, avec cette musique, je réfléchis pas. J'ai soif.
Ah, bah bravo, Charline, t'as réveillé la bête. Allez, allez, ça suffit là, ça suffit. Allez. Oh, oh là là là. Bon, oh, tu disais, Charline, que tu travailles donc.
Bah, oui, les boîtes de nuit, elles rouvrent ce soir, ok? Ah, donc, oui. Actu, on a invité une reine de la night, Amanda Lear. Actu au carré, émission éditorialisée. Allez, musique!
Bon, Juliette, suis-moi.
Mais on va où là?
Suis-moi, viens, on marche dans le couloir.
Mais non, mais il faut pas la laisser toute seule, enfin, tu vois bien qu'elle fait n'importe quoi.
Chasser le naturel, il revient au galop.
Hein?
Compte dans ta tête jusqu'à 5.
1, 2.
Hé les copains, vous êtes où là?
3, 4.
Revenez là, faut s'y remettre quand même un peu là. Et la vie, c'est pas un pique-nique, hein?
5.
Au boulot!
La France Inter et bienvenue chez les petits fonctionnaires de la Gaudriole, dont voici la devise « Pierre qui roule pour Zemmour n'amasse pas mousse chez Le Pen ». Au sommaire, tandis qu'on maltraite nos vieux dans les EHPAD Orpea, la Cour des comptes révèle que le lourd bilan de la pandémie dans les EHPAD est imputable au manque de personnel. Dans certaines structures, la maltraitance est cumulée avec une gestion calamiteuse, mais peut-on généraliser?
C'est super, c'est une bonne idée d'avoir mis des chrysanthèmes.
Oui.
Ah ouais. Ça les met dans l'ambiance comme ça.
Parce que les fake news sont un enjeu démocratique sérieux, la science étudie les mécanismes psychologiques qui nous poussent à y adhérer et pire, à résister aux vérifications. Et pourtant, si les gens embrassent une fausse information au départ, il y a le désir authentique de se poser de vraies questions.
Tu savais que Vivaldi, il a écrit les 4 saisons parce que son père était pizzaïolo?
Tu savais que 2 des 3 enfants d'Hitler sont les créateurs du jus d'orange? Tu savais que Mozart, en fait, c'était Beethoven?
Si le refus de se maquiller est un mouvement qui a trait à la politique, se maquiller, c'est politique aussi. Et c'est malin parce qu'on se méfie moins des femmes qui manient le pinceau, puisqu'elles véhiculent un cliché de superficiel. Voilà une arme que n'ont pas les hommes, mais qu'ils seraient bien foutus de revendiquer.
Bah oui, 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 mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tabac, mais je réclame le droit de vivre, voilà.
Mais oui, André Manoukian, c'est bien. Oh, pardon, j'ai déploré. À mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, et à nos côtés, en l'honneur de notre invité, une équipe d'oiseaux de nuit avec, dans les milieux noctambules, on chante sur son passage papillon de lumière sous les projecteurs. Et c'est pour ça, c'est pourquoi nous, on ne le voit que 2 jours et que 2 jours par an. Bonjour André Manoukian.
Bonjour mesdemoiselles, je suis tellement ravi de vous retrouver, ça faisait si longtemps. Je vais vous parler d'un glass car qui s'appelle Dimension 32 et surtout d'un mouvement qui s'appelle le Lo-Fi.
Ça a l'air super, ça.
C'est dingue,
on se réjouit.
Lo-Fi.
Ah ouais.
Oui, la fille.
C'est comme Ifi, c'est Lo-Fi.
C'est le contraire
là, c'est
de Lo-Fi.
Ensuite, la rumeur dit que les nuits de pleine lune, il sort avec son gros micro et oblige les gens à répondre à ses questions sous peine de les mordre à la jugulaire. Mais qui croit la rumeur ici? Pas nous. Bonjour Guillaume Marie.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Et bien moi j'ai appelé le maire de Bulgnéville. Figurez-vous que ce maire, il a accordé son parrainage à la présidentielle à François Hollande. Et je crois qu'il me connaissait déjà un peu.
Ah, Maurice, d'accord. Oui, après ça, j'ai déjà vu vos analyses.
Oui, je crois, voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut parler d'analyse.
Analyse.
En ce qui me concerne, ouais.
Enfin, il n'est qu'à regarder la taille de ses cernes pour savoir que ses nuits sont plus belles que nos jours, ou plus pleines, ou plus agitées, en tout cas avec moins de sirop à l'eau. Bonjour, Aymeric Lompré.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler aussi du Lo-Fi.
Si on déconne.
Ouais, ouais.
Et voici celle qui va ambiancer notre antenne. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes.
Oui.
Car vous êtes, qui êtes-vous?
Bonjour, je suis Amanda Lear, la vraie.
Ouais. France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bonjour Amanda Lear, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes la vraie?
Ben ma voix, je suppose, non?
C'est vrai, déjà, effectivement.
Ça va être un bon moyen d'identification, je pense. Vous savez que maintenant, il y a les identifications avec votre pouce, là, pour ouvrir votre téléphone bien portable. Sûr. Alors, il y en a, on les reconnaît plus. Hein. J'ai pas mal de copines, elles n'arrivent plus à s'identifier.
Mais la
C'est vrai que Jack Lang, il doit galérer, il doit refaire tous les
voix singulières.
Mais avec la voix, bon.
Vendredi prochain, nous serons le 25 février, sur Arte, nous pourrons voir un documentaire qui vous est consacré, qui sera projeté aussi demain soir à 19h45 à la Gaîté Lyrique, si vous êtes à Paris, en présence de Jean-Paul Gaultier et du réalisateur Gero von Böhm. Ouais. Alors, ce documentaire, Queen Lear, de Gero von Böhm, c'est un film qui retrace votre vie, de l'étudiante aux Beaux-Arts, au mannequinat, le départ à Londres, la vie avec Brian Jones, les 15 ans de vie commune avec Salvador Dali et Gala, puis David Bowie qui vous lance dans la chanson, le disco, la télévision en Italie et le théâtre en France. Alors ça, c'est moins dans le documentaire,
voilà,
c'est votre vie.
Toute ma vie résumée.
Alors, à la vue de ce documentaire, on se dit tout naturellement, elle a fait de sa vie une œuvre. Il y a d'ailleurs un des intervenants qui le confirme, qui le pense. Le documentaire a pour sous-titre « Les vies d'Amanda Lear ». Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait de votre vie plusieurs œuvres, dans le fond?
Oui, vous savez, c'est un peu comme les chats. On dit que les chats ont combien? 7 vies, je crois. En train. Ouais. Je pense qu'à chaque fois, on recommence une nouvelle vie. Parce que moi, je déteste lasser les gens. Moi-même, personnellement, je me lasse très vite. Je m'emmerde au bout de 5 minutes. Non, mais vous savez, aller toujours au même restaurant, voir toujours les mêmes personnes. Regarder, et quand vous regardez la télé, vous dites « Oh là là, encore lui, oh là là, j'en peux plus, ou encore elle, ça fait toujours pareil. » Donc moi, je pense qu'il faut se renouveler à chaque fois. Voilà. Et à chaque fois, c'est une nouvelle vie. Après le mannequinat, qui de toute façon ne dure pas toute la vie.
Si, maintenant.
Il y a des vieilles qui défilent.
Et à poil et tout, et c'est très beau.
Oui,
c'est là qu'on sent qu'André Mathieu est
revenu. Il apporte toujours ce petit plus.
Les messieurs aussi,
oui. Oui, mais je veux dire, l'idée, c'est de, voilà, on peut montrer des cas. Enfin, on est en train de se rééduquer et ça fait du bien, quoi. Vous avez pensé
quoi? On baisse un peu les lumières quand même.
Non, en pleine lumière. Et du coup, quand c'est assumé, c'est magnifique.
Oui, c'est ça.
Vous voyez la photo dont
Non, mais c'est pas vrai.
Sinon, on a préparé une interview. Vraiment, comment vous le sentez?
Vous savez. L'humidité est belle à tous
Ans, quand il joue au golf, c'est plus la peine.
Il y a chez vous, un refus de l'autobiographie écrite.
Un refus de l'autobiographie.
Oui, mais
non, mais j'en ai écrit deux d'autobiographie.
Oui, mais pas comme le documentaire vous montre.
Ah, le documentaire. Oui, le documentaire.
Il y a un choix de documentaire parce que l'image permet des choses qui vous...
Oui, alors ils ont été chercher en effet des très vieilles images de moi, de mes débuts de mannequin. C'est en noir et blanc, en tout cas, la télé était en noir et blanc. Et là... Et c'est vrai qu'on me voit maigrichonne, moche comme tout. Et pour expliquer.
Alors là, pardon, alors là, vous ressemblez à Jane Fonda au même âge. Arrêtez de dire ça. Non.
J'étais vraiment maigrichonne. Non. J'avais un appareil pour me dresser les dents. Enfin, c'était pas terrible. Et donc.
Ah, j'aime bien, moi, les.
On ne juge pas, André.
Et donc, ils couvrent toute cette période. Puis après, il y a la rencontre avec Bowie. Donc, c'est vrai qu'ils ont montré les extraits de David et moi ensemble. Et puis, il y a eu une histoire de Salvador Dali. Mais ça a été vu 1000 fois, je veux dire, à la télé française. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est ce que j'ai fait à l'étranger. Voilà. Comme j'avais la chance de pouvoir parler allemand ou italien ou espagnol, etc. Donc, j'ai pu travailler aussi hors de France. Et c'est ça qui est intéressant pour le public français, c'est de découvrir ces images-là, parce qu'il les connaissait pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous le dites, oui, c'est une nouvelle vie. Il y a eu la vie disco, il y a eu la vie mannequin, il y a eu la vie actrice de théâtre. Et maintenant, il y aura la vie d'une vieille dame indigne.
J'aime beaucoup aussi la vieille.
Il y a une chose qui n'est pas nouvelle, en revanche, c'est que dans le document, on a vraiment la sensation, même si c'est pas vous qui le signez, qui signez la réalisation, la production, c'est que c'est vous qui follow the lead, comme le titre de votre chanson, enfin, que on vous suit, c'est vous qui menez la danse. Tu ne sais pas de quoi tu parles, André, tu n'as pas vu le documentaire.
Quand ils m'ont approché, j'ai dit, ok, d'accord, vous avez des belles images de moi, mais moi, je ne veux pas apparaître aujourd'hui. Vous imaginez pas que vous allez me montrer sublime, il y a 30 ans, bien éclairé et tout, et puis, justement, gros plan sur moi, dans mon jardin en Provence, avec un carré soleil à dos, enfin, vous voyez le genre, habillé comme Henri-Jean Servat, tu vois, et donc...
Comme dans un reportage de Paris Match, on voit bien, d'accord.
Donc, j'ai dit, les gens vont faire la comparaison, vont dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a morflé grave, non. Donc, je voulais pas apparaître du tout, j'ai dit, vous aurez ma voix off. Alors ils m'ont dit, oui, on a fait ça avec Marlène Dietrich, elle voulait pas apparaître, j'ai pas son âge, mais quand même. Et puis, ça me gênait beaucoup. Alors, finalement, il a fallu beaucoup discuter. J'ai accepté qu'on me filme dans la pénombre. C'est-à-dire, pas vraiment trop éclairé, on me voit. Parce qu'il voulait que je commente toutes ces images. Je dis, oui. Ah oui, ça, je me rappelle, c'était bien que t'as.
Donc, vous avez choisi la lumière, encore une fois. C'est vous qui avez choisi.
Voilà. Et c'est très important, la lumière. Moi, j'aurais refait toutes les lumières, là, ici. Je suis très préoccupé.
Il y a une chose qui est assez contradictoire dans ce documentaire, c'est qu'on voit bien le goût que vous avez assumé pour la célébrité, les paillettes, la lumière, la belle lumière choisie. Mais par ailleurs, vous aimez foncièrement la peinture, vous l'avez pratiquée toute votre vie, qui est un art qui se pratique assez seul, somme toute, et vous avez un vrai goût pour la solitude.
D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on en parle un peu plus de peinture dans le documentaire, on l'a un peu zappé. J'ai toujours aimé être seul. J'adore la solitude. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas une tragédie du tout. Être seul, c'est extraordinaire. On ne rend de compte à personne. On mange ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on regarde le programme télé qu'on veut. C'est merveilleux d'être seul. C'est la liberté totale pour une femme, être obligée, vous imaginez, de dire à son mari, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce que tu veux manger? C'est très chiant. Donc, être seul, moi, je trouve que c'est un... C'est génial. Les femmes qui peuvent se payer leur loyer toutes seules, eh ben, tant mieux pour elles. C'est pour ça qu'il faut qu'elles travaillent. Et donc, j'ai toujours aimé ça. Et maintenant, de plus en plus, comme on est tellement entouré de cons, moins on les voit. Moi, le confinement, ça a été génial. J'ai trouvé ça... On devrait faire un confinement régulièrement. Vous savez, tous les 4-5 ans, faire un confinement. Parce que ça vous permet de faire une pause, vous voyez, prendre un peu de recul, dire, bon, attends, on se calme, là, bon, on est confiné, on ne voit plus personne, ça vous donne le temps de réfléchir.
De réfléchir au monde d'après.
Voilà, donc je trouve ça vraiment très bien. Alors, toutes mes copines, évidemment, de mon âge, quand je vais en Angleterre, elle me dit, oh là là, tu te rends compte, mon mari m'a quitté pour une plus jeune. Ben, je dis, mais tant mieux, qu'est-ce que tu te plains, t'es débarrassé de ton vieux mari qui t'a quitté pour une jeune, t'as une pension alimentaire, ben, tu pars en croisière avec un gig maintenant.
C'est simple, la vie, comme
mais bien sûr, mais bien sûr. Eh bien, c'est le mot, c'est quitter vos maris. Allez, on y va.
Je veux un gig. J'exige un gig.
Prenez des gigs. Mais comment on voit la vie tellement belle avec Amanda Lee? Ça fait un bien fou, Amanda, on est ravis. On a envie de vous suivre, follow me, on va l'écouter, bien sûr. Mais c'est elle qui mène la danse, elle a choisi les sujets, elle a tout choisi, elle a choisi qu'André Manoukian soit là aussi, tout. I'm getting out, I'm moving on.
Amanda Lear, qui est avec nous dans le studio de Par Jupiter sur France Inter. Et pour l'accompagner, Juliette Arnaud.
Mais deux personnes qu'on a envie de suivre, André Manoukian, Émeric Lompré, et quelqu'un qui va vous suivre bien tout de suite, là maintenant.
J'ai appelé cette chanson Follow Me. J'imaginais pas que 40 ans plus tard, sur Instagram, il y a des followers et tout le monde dit Follow Me, Follow Me.
Mais vous étiez tellement influenceuse avant l'heure.
Mais oui.
Amanda Lear. Et à présent, je vous présente Guillaume Meurice avec lequel nous faisons un journal.
Oui, de qualité.
Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup.
Le journal de presque 17h17.
Moi, je ne considère pas Éric Zemmour comme un ennemi. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, je pense que j'ai péché par excès de sincérité.
Et on commence par les titres.
Oui, on évoquera une campagne complètement ratée.
Ah, la campagne d'Anne Hidalgo,
non,
monsieur.
Non, la campagne anti-Covid.
Ah, autant pour moi, parce que ça a marché aussi avec Anne Hidalgo, je pense.
Et on parlera aussi de la fin d'un mythe.
Alors là, on parlera de la carrière politique d'Anne Hidalgo.
Non, ça s'agira de la fin de Plus belle la vie.
Ça va, parce que ça marche aussi. Ça marche aussi.
Et enfin, on parlera de Salut Nazi.
Ah, ben, c'est plus quoi faire pour se faire remarquer, Anne Hidalgo.
Non. Ça n'a pas ou quoi ? Rien à voir.
Ah, c'est là.
Non, mais vous verrez. Je vous dirai.
Parce que dans le national-socialisme, il y a socialisme quand même. Oh. Bon, on commence par la politique.
Voilà, l'émission vient de s'arrêter. Effectivement, après 7 ans et demi d'émission, avant d'aller. Sur ce, on se souviendra que vous étiez notre dernière invitée. Et ce sera vraiment
petite
très émouvant.
Émission partie trop tôt. Oui. Allez, commençons par la politique donc.
Valérie Pécresse a été interrogée par France Info sur sa passion du cinéma.
Moi, je suis une cinévore absolue.
Même en ce moment ?
Bah, en ce moment, c'est un peu plus dur, je vous cache pas. Mais dans 2 mois, je me rattraperai.
D'accord, donc dans 2 mois, juste après le premier tour. Voilà, c'est beau autant de clairvoyance. Je trouve.
Et d'ailleurs, l'État demande à Valérie Pécresse de renoncer à 2 projets en raison de son manque de compétences.
Ah oui, donc il demande de renoncer à la candidature à la présidentielle, évidemment. Mais c'est quoi le deuxième projet sur lequel elle doit...
Ce sont des projets de sécurité de la région Île-de-France. Il s'agit de l'incompétence de la région dans ce domaine.
Ah, donc elle va continuer sa campagne.
Bah oui.
Ah d'accord. Voilà. Ok, incompétence toujours.
Oui, Ségolène Royal tacle Anne Hidalgo et juge que Mélenchon est le vote utile à gauche.
La tuile, vraiment coup dur.
Ouais, violent pour Anne Hidalgo quand même.
Non, coup dur pour Mélenchon. Ségolène Royal, franchement, est-ce que vous préférez avoir une jambe en chamallow, parler avec Marlène Schiappa ou être soutenu par Ségolène Royal?
Allez, on enchaîne. Politique mieux, encore. Pense, une enquête a demandé aux Français avec quel candidat de la présidentielle ils aimeraient fumer un joint. Le premier est Éric Zemmour devant Marine Le Pen. Seulement 1% des Français aimeraient fumer un joint avec Valérie Pécresse.
Mais c'est parce qu'ils sont misogynes, les Français. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est marrante comme un clown dépressif. C'est de la pure misogynie, ça.
Et puis cet officiel, Nicolas Bay, rejoint l'équipe d'Éric Zemmour.
Oh, le Paul Tuit, oh là 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 là. Comment Marine Le Pen va faire sans le... Wow. Comment vous dites? Je sais comment ça s'appelle.
Nicolas Bay.
Waouh, Nicolas Bay, ouais, grave. C'est qui?
Qui c'est, Nicolas Bay, qui c'est? Ouais. Aucune idée, je sais pas. Le cuisinier, je
sais. Chaud, je sais pas comment.
Extrême droite toujours, un eurodéputé bulgare a fait un salut nazi avant de quitter l'hémicycle.
Ouais. On se plaint des sénateurs qui s'endorment en pleine séance, mais finalement, c'est pas mal. On va garder ce qu'on a.
Et puis, un chef d'entreprise vendéen a vendu sa société et a légué presque 3 millions d'euros à ses salariés.
Ça, c'est beau, un chef d'entreprise qui donne des primes à ses salariés. Ça. C'est un modèle que beaucoup de personnes devraient suivre. Chef qui donne des primes.
Ça vous arrivera, France Inter.
Je sais pas, chef. Un chef qui donne des primes, c'est un beau modèle.
Là, vous devenez lourd là, Guillaume. Vous devenez très lourd, gros sabots.
Vous m'avez vu venir?
Non, pas du tout.
Quand j'ai fait la formation, j'étais un ninja.
Ça s'est pas vu. Média à présent, testée positive au Covid, Léa Salamé ne sera pas face à Yannick Jadot ce soir sur France 2.
Là, utiliser le Covid pour pas se taper 2 heures avec Jadot, c'est osé, mais je comprends. J'aurais fait pareil, je sais pas.
Selon les informations du Figaro, la série de France 3 Plus belle la vie va s'arrêter définitivement avant l'été.
Amanda est catastrophée.
Vous savez, quand j'ai rencontré Jean-Claude Godin à Marseille, il m'a dit « Amanda, venez à Marseille, je vous ferai faire le plus belle de la vie. »
Il s'est parlé aux femmes.
J'ai vu ma carrière brusquement.
Heureusement, il nous reste le big deal.
Big deal, ça n'existe plus depuis...
Non, ne me dites pas la vérité, Charline. Je préfère rester dans le déni.
Allez, on va finir par une brève. Besançon, en possession de cannabis, un homme prétend vendre des tiramisu.
Le parrain de la drogue est connu des services de police. Il s'appelle Al Mascar. Mascarpone.
Désolé. Voilà.
C'est comme Al Capone, mais mascarpone.
De toute comme c'est la dernière émission, c'était pas très grave.
Amanda, pour finir sur la meilleure blague.
Amanda Lear, en notre compagnie, je rappelle que vous pourrez voir le documentaire Queen Lear vendredi 25 février à 22h25 sur Arte. On va aborder un sujet que vous avez choisi, Amanda. Maintenant, c'est la Cour des comptes qui révèle la défaillance des EHPAD en plein scandale des établissements Orpea. Un rapport montre que le lourd bilan de la pandémie dans les maisons de retraite n'est pas dû qu'à la fragilité des patients, qui en plus se prennent des bourre-pifs, je rappelle, mais au manque de personnel. C'est aussi cette gestion calamiteuse qui a fait bondir le cours de la chrysanthème. Donc.
C'est pas facile car tu n'as plus tes jambes. Oh oh, faut que je m'ouvre. Mais il n'y a personne pour pousser le fauteuil. C'est pas facile car tu n'as plus tes dents. Oh oh, faut que je mange. Mais il n'y a personne pour tenir ta paille. Dans les EHPAD, ça va pas, papa.
Frédéric,
moi, ça m'a révolté. Oui, ça m'a révolté. C'est vrai. C'est un sujet qui est pas, qui fait pas rire. Mais franchement, de voir que ces gens ne pensent qu'à faire du fric en, pas en les maltraitant, mais disons en les négligeant, toutes ces vieilles personnes, pas leur donner assez à manger. Et après, je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas la faute du personnel, c'est qu'il n'y en a pas de personnel. Il n'y a pas d'infirmière. Moi, j'avais ma maman est morte dans un EHPAD, et je me rappelle, elle me disait, je sonne. Elle me dit, mais madame, on manque de personnel, les infirmières, elles sont débordées. Et ça, c'est un gros problème. Alors pourquoi il n'y a pas d'infirmières? Parce qu'on ne veut pas les payer. Ils veulent pas, ils les payent avec des élastiques, donc les gens préfèrent travailler ailleurs.
Et qui s'appelle Orio, le capitalisme.
Voilà. Alors Dieu nous préserve de finir comme ça, quoi. Je préfère mourir chez moi ou me faire piquer à Zurich, mais franchement, pas envie de finir dans un EHPAD. C'est tragique cette histoire-là, franchement.
Ce sujet, vous l'avez choisi donc pas uniquement parce que vous étiez scandalisé par ce qui vient de se produire avec le livre enquête, etc. C'est une indignation.
Non, mais c'est vieux, on le sait depuis des années que ça marche pas. Puis alors, vous payez, c'est très cher, vous savez ça.
Justement.
À Paris, c'est des 10 000 euros.
L'EHPAD coûte une blinde, alors finalement, le luxe, ce serait de pouvoir rester chez soi ou d'être pris en charge par des proches. Ça, c'est un paradoxe de la société avec lequel vous avez du mal à vous accommoder, j'imagine.
Ah non, ça, je trouve ça franchement épouvantable. Moi, je suis de toute façon pour l'euthanasie, quand on libre, quand on veut, voilà. J'en ai marre de la vie, salut, voilà. Mais être obligé de continuer comme ça. La vieillesse, vous savez, il y a absolument. Je ne vois aucun avantage à la vieillesse. Les gens qui vous disent c'est formidable la vieillesse, la paix des sens, la sagesse, toutes ces conneries-là.
Si seulement la paix des sens.
Bien sûr. Vous voulez pas qu'on fasse un béguinage entre filles ? On vous emmène dans un béguinage. C'est un bon projet ?
Non, moi je m'en fous. Je disparaîtrai un jour, voilà, terminé, on ne me verra plus. On m'a assez vu de toute façon.
En tout cas, on ne vous verra pas dans un EHPAD, ça on a bien compris.
Qu'est-ce que c'est un
béguinage ? Non, je vous dis, je préfère franchement.
Alors un béguinage,
c'est un endroit où des femmes choisissent de vivre ensemble.
Ah ouais.
De l'architecture, c'est avec une forme de jardin intérieur.
D'accord.
Et puis un bâtiment qui fait tout le tour comme ça, c'est une sorte de centrale.
Il n'y a pas d'Emery Clompret.
Je pourrais venir, Charlie.
Non.
Eh ben non.
Bah
non,
c'est que deux mois. Mais prenez la parole alors, André Manoukian. Faites-moi un petit peu de musique. Tenez.
Allez, Amanda, je vais vous parler d'un mouvement musical qui est né dans les années 80 et qui s'appelle le Lofi. Low fidélité, basse fidélité. Basse fidélité, c'est un peu mon histoire. Mais bref, le Lofi naît en réaction aux superproductions américaines des années 80, dans lesquelles, par exemple, Quincy Jones chaînait plusieurs magnétophones multipistes pour obtenir des enregistrements qui comptaient jusqu'à 90 pistes. La prod de Michael Jackson, ce son énorme. En fait, c'est des empilements savants de cuivre, des violons à tout va, des percussions africaines, sections rythmiques les plus affûtées de la West Coast, des chorales de gospel, une armée de musiciens de studio qui étaient dirigés par le genius Quincy, qui avait arrangé pour Count Basie, Frank Sinatra, qui avait étudié Debussy et Ravel dans la classe de Nadia Boulanger à Fontainebleau. C'est un genre de sommet dans l'histoire de la pop. Mais derrière le son de Michael, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident de passer. Alors, bien sûr, les albums épiques avaient commencé dès les années 60, le Sgt. Pepper des Beatles ou le Pet Sound des Beach Boys, mais on peut dire qu'à la fin, c'est Michael Jackson qui va battre les records de boursouflure du son. Sauf que quand t'as enchaîné tous les 8000 mètres de l'Himalaya, qu'est-ce qui te reste? La forêt d'Ambouillet.
Trop de technologie.
Le grunge et les garage bands, en fait, qui naît dans les années 80, c'est des gars qui vont transformer la dèche de leur prod en super classe esthétique. On fait du son avec rien. Un micro pour la batterie, allez, une ligne directe pour la basse et un micro pour le chanteur. Mais surtout, un son crade. Un son qui sent bon les odeurs corporelles et pas le savon. Beck, The Strokes, les White Stripes se revendiquent de cette radicalité. Ça, c'est dans les années 80-90. Le lo-fi dont je vais vous parler maintenant n'a rien à voir avec ces ardeurs rageuses, ces tables qui volent, ces provocations sonores. Le lo-fi de maintenant, ce sont des anonymes, des musiciens bidouilleurs qui, enfermés dans leur chambre, derrière leurs ordi, produisent une musique pour des gens enfermés dans leur chambre, derrière leur bureau. Sauf que ces gars, dont personne ne connaît le nom, par la grâce du streaming, font des scores de plusieurs millions d'auditeurs, bien plus que les chanteurs du CAC 40. Je vais vous présenter l'un d'entre eux, il est français, son pseudo Dimension 32. Tu vois déjà le potentiel du Lascar. Hein, la quatrième dimension, t'as du mal, là, on est dans la 32e dimension. Le lo-fi, en fait, c'est de la musique essentiellement calme. Le tempo tourne autour de 60 bits par mesure. On s'en fout d'avoir un son radio compatible. On joue pour soi. Une méditation tranquille, sans pour autant tomber dans la musaque des salons d'épilation. Il y a une puissance enfantine.
On voit très bien de quoi vous parlez.
Et la musique chante du yoga. Hein, une force.
Vous vous épilez, du coup ?
Moi, oui.
Ah, c'est ça, parce que je me dis comment il
s'est seul. J'en bave. Une force. Quand je m'épile, je perds la moitié de mon poids. Une force au retour aux ressources illimitées qui se contient, qui apaise. C'est une musique qui ne donne pas envie, Amanda, d'envahir la Pologne. Et ça, c'est bien. Le malheur des hommes vient qu'ils s'ennuient dans leur chambre, disait Pascal. Cette musique est faite pour les adeptes du voyage immobile. Et il faut croire qu'ils sont des millions. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on est en plein contre-courant des diktats d'hier, le fameux 120 BPM que vous avez connu.
Oui,
120
oui,
bits pour faire danser.
Production.
Voilà. Et puis il fallait ce tempo parce que là, c'est là-dessus qu'on danse. Bah, personne n'avait venu venir ces filles et ces gars qui bricolent leur ordi avec une pauvre carson et une guitare. Le mouvement est planétaire. Le lo-fi, le slow movement, l'ASMR, autonomous sensorial, meridian response. Enfin, vous savez, quand on frotte, on fait comme ça. Susurre-moi des mots doux dans... Enfin, voilà. Face au boucan... Voilà, c'est ça.
Ouais, susurrer vous... la conclusion.
Voilà. Alors, face au boucan du monde, aux paroles dissonantes, à la discorde organisée, à la culture du clash, au catch permanent, Dimension 32 est ce guitariste français qui nous aide à retrouver le murmure du monde et qui nous guide vers le seul refuge qui vaille quand tout vacille autour de vous, la couette. Avec 16 millions de streams sur Spotify, plus d'1 400 000 auditeurs par mois, il a sorti un projet avec plusieurs artistes féminines. En plus, parce que ce milieu est encore un peu trop, pas assez investi par les compositrices. Il réunit sur son album des artistes du Brésil, de Turquie, des USA, d'Angleterre, d'Italie, de Hollande. Dimension 32, distribué par l'excellent label Fridonia, ce pays imaginaire où le dictateur était Groucho Marx, pyjama de tous les pays.
C'est ça qu'on entend dans ce moment.
Unissez-vous, c'est ça.
C'est bon. C'est vrai que ça appelle la couette. Hein.
Thank you.
vous aussi ou pas? Monsieur Interprécier, qu'est-ce qu'on fait?
Dimension 32, c'est cool, hein.
Merci André Manoukian pour cette découverte qui fait tant de bien. Nous sommes en compagnie d'Amanda Lear qui a aussi sorti son 20e album.
Oui, justement. Lofi.
Voilà. Ouais. Guitare, piano, texte, comme vous dites. Dites, j'ai une question pour vous, Amanda Lear, parce qu'il est question d'espionnage dans les partis politiques en ce moment. Est-ce que vous auriez une information stratégique et confidentielle pour torpiller les grosses têtes qui sont à la même heure que nous?
C'est les grosses têtes?
C'est les grosses têtes. Ouais. Oui, c'est enregistré, donc vous
oui, moi, il y a longtemps, moi je le faisais autant de bouvard, maintenant je ne sais pas ce qu'ils font.
Vous n'avez pas d'infos. Bon, c'est pas grave.
Alors, il m'a fait plusieurs appels du pied, Laurent Ruquier. Mais j'ai dit, après 15 ou 17 ans avec Bouvard, bon, moi je suis assez fidèle en amitié. Donc,
Et puis vous changez de vie tout le temps, il fallait changer. Voilà. Guillaume Meurice est toujours là, on va en profiter.
Bah, je vais peut-être changer de vie aussi, parce que vous le savez certainement, j'ai un parrainage officiel d'élu pour l'élection présidentielle.
Mais non.
Et oui, déposé au Conseil constitutionnel. Donc, la dynamique de la campagne est avec moi. Elle prend de l'ampleur. Brice Teinturier parle même d'un effet Meurice dans les sondages. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura des ministères pour tout le monde autour de cette table. Dédé, bah, vous serez porte-parole. Parler pour ne rien dire pendant des heures, c'est pour vous peut-être plus qu'une passion, c'est un art de vivre. Hein. J'avais hésité avec le ministère de l'énergie, parce que vous brassez quand même pas mal de vent. Vous m'avez manqué, Dédé. Revenez plus souvent. Cependant, il convient d'être quand même tout à fait vigilant, parce que j'ai quelques concurrents directs dans la course à la présidentielle, notamment un qui a le même nombre de parrainages que moi, François Hollande. Il a un parrainage aussi, donc on a égalité pour l'instant. Un maire a donc donné sa signature à François Hollande, il s'agit de Christian Franqueville, il est maire d'une commune des Vosges, Bulgnéville.
Burne quoi?
Bulgnéville. Voilà, alors j'ai appelé Christian. Pourquoi ce soutien? Est-ce qu'il vient juste de sortir du coma? Peut-être, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est une démarche humoristique?
Non, c'est pas une démarche humoristique. C'est-à-dire que je veux bousculer. J'ai même pas appelé. J'avais essayé de l'appeler hier soir, j'ai pas eu le temps. J'avais essayé de joindre François pour lui dire, écoute, il faut que tu bouges quelque chose.
Bah, il faut qu'il bouge quelque chose, François. Là, je sais pas quoi, hein, des meubles, bouger son cul. Il y a une urgence. Quand il y a une urgence, on appelle les super-héros. Hein, donc on appelle les Avengers. Voilà, Hollande, Valls, Marisol Touraine, Jean-Vincent Placé. J'arrête là parce que ça fait vraiment rêver Charline au premier degré. Et Christian Franqueville, c'est un ancien...
Baladure, ça m'excite.
Mais oui, ils sont tous là. Et Christian, c'est un ancien député PS. C'est pour ça qu'il est à fond.
Moi, je dis, il lui appartient de sortir du bois et puis de dire, bah, écoutez, il faut peut-être qu'on essaye de trouver, sous son autorité... une candidature unique.
S'il se présente, ça va faire une candidature de plus encore.
C'est justement, j'envoie un message en disant que dans la dilution, on peut encore faire mieux.
Oui, est-ce que c'est pas le problème finalement, hein? Ou pire, on fait mieux, ou pire, parce que c'est vrai qu'il y a quelques gens de gauche encore qui ne sont pas candidats. Jocelyne Poutier de Joncourt-sur-Isère n'est pas candidate, Michel Pichot de Breteuil-en-Ariège, Monique Ranou. Elle a encore rien dit, Monique Ranou, elle ne s'est pas déclarée. C'est vrai qu'à gauche, il y a plus de candidats que d'électeurs. Mais c'est pas grave, puisque, après tout, est-ce que Hollande, c'est une politique de gauche?
La politique n'a pas été une politique de gauche. Elle a été.
Bon. Mais est-ce qu'on peut faire l'union de la gauche derrière quelqu'un qui ne fait pas une politique de gauche?
Disons que. Là encore, je suis persuadé que François Hollande a été un peu trop gentil avec.
Avec le MEDEF.
Oui.
Avec le MEDEF, oui. Avec Julie Gayet aussi. Hein, vous suivez l'actu, j'ai l'impression. Oui, mais il est gentil avec tout le monde. Mais parce qu'il est gentil, François. C'est un monsieur gentil, c'est monsieur petite blague. Il aurait pu être aux grosses têtes comme vous il y a quelques temps, Amanda, entre Olivier de Kersauzon et une question de Madame Mélamois dans le Bas-Rhin. Il fait des blagues, il est gentil. Par exemple, c'est grâce à lui qu'on a eu Macron. Bonne blague. Très bonne blague de François Hollande. C'est grâce à lui qu'on a filé de l'argent à toutes les entreprises sans contrepartie.
Quand une entreprise... gagne de l'argent, c'est là où elle l'a redistribué à ses salariés.
Là, est-ce qu'elle ne l'a pas plutôt redistribué aux actionnaires?
Disons que c'est là que le dispositif présentait pour moi une déficience.
Ah oui, il y avait une petite déficience.
On l'a repéré, la petite déficience, hein, ce qu'on peut appeler une déficience. Mais bon, ça nous arrive à tous d'avoir des déficiences. Hein, Aymeric, j'ai écouté vos dernières chroniques, on peut dire, voilà, c'est une marque de fabrique aussi, la déficience. Hein, moitié déficience, moitié LSD. Bon, Hollande, c'est pareil, il a juste filé quelques dizaines de milliards d'euros à des boîtes sans contrepartie, c'est tout, ça arrive. Hein, c'est pas...
Parce parce qu'on n'avait pas été suffisamment loin.
Mais vous vous êtes dit, on va donner de l'argent aux entreprises et naturellement, elles vont augmenter les salaires parce qu'elles sont gentilles.
Oui, voilà.
Du coup, vous avez été surpris qu'ils reversent tout de l'argent aux actionnaires?
Ah ben oui, tout à fait surpris. Ah oui. Mais disons que c'est là que le correctif n'est pas arrivé suffisamment tôt.
Oui, il y a un petit problème de correctif.
Voilà.
Ouais, ça, mais oui, ça se joue au niveau du correctif parce que c'est vrai que, non, mais, oh, c'est vrai que c'est surprenant. Vous donnez plein de pognon à quelqu'un sans lui demander rien en échange et il le garde pour lui. Et alors là on est surpris quoi. On est sur le cul ou alors il le file à ses copains. Vous laissez une bouteille de Chardonnay et Juliette dans une pièce vide pendant 2 heures, vous revenez, la bouteille est vide. Non ! La surprise est totale. Allez, il est temps de conclure avec la seule question qui vaille quand même toute cette chronique un petit peu pour ça. Pourquoi il n'a pas donné à moi son parrainage ?
Eh ben parce que je ne savais pas que vous pouviez représenter Mais vous savez ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte qu'on ait un président de la République de gauche et puis on mettra M. Meurice comme Premier ministre.
Non, ça pue l'arnaque encore. On s'est déjà fait arnaquer une fois par le PS. Donc non, le vote utile, c'est moi. Il me manque 499 parrainages. Donc les élus, on se dépêche. Hein, quitte à tuer l'espoir, autant le faire en rigolant. La gauche est morte. Vive la gauche.
Votez Meurice. Et ça va être... Dites-vous que la comptabilité pour le CSA, ici, ça va être quelque chose. Déséquilibre terrible.
Oh là là là.
Amanda Lear est avec nous pour notre plus grand plaisir. Amanda, on pourra donc voir le documentaire qui narre vos mille vies. Queen Lear sur Arte, vendredi 25 février à 22h25. Et Juliette Arnaud, vous avez choisi un sujet sur mesure pour Amanda.
Si Donald Trump a remis en vogue la couleur orange sur le visage, c'est pas lui qui a inventé les fake news. La désinformation est un phénomène bien plus ancien que Trump et même qu'Internet. C'est certes désolant, mais il y a des moyens de lutter en décryptant d'abord les mécanismes psychologiques à l'œuvre. Parce que, au pays de Descartes, le nôtre, on est censé aimer remettre en cause, douter, déconstruire, même et surtout nos certitudes.
C'est dangereux comme tout, la mer. C'est plein de baigneurs qui se noient, de bateaux qui coulent. Avec des anticyclones, des lames de fond, des icebergs.
Des icebergs ? En bête somme ?
Des icebergs ou autre chose, ça revient au même. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout.
Alors, écoutez, madame, ça n'est plus la victime qui vous parle, mais l'éducateur, le sociologue. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ?
2 ans de télé.
C'était un film de Michel Audiard. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Et on a entendu Mireille Darc et Mireille Darc et Sim. C'est un sujet que vous nous avez...
Ah, c'est horripilant, écoutez, on est envahi de fake news tout le temps, à tel point qu'on en vient à douter des vraies news, on ne sait plus, on devient tellement parano en disant oh, ça ne peut pas être vrai, ça c'est pas possible. Alors ça rejoint les complotismes, la Terre est plate, on a marché sur la Lune, etc. Mais là c'est tous les jours, pour la politique, pour les sondages, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, on est passé pas. Le Covid, n'en parlons pas, un jour il est fini, un jour non. Aujourd'hui on dit que dans le vaccin anti-Covid, on a mis un peu de VIH, du sida.
Ça, c'est vrai, par contre, je crois. C'était vrai.
Non, mais des trucs hallucinants. Alors, moi, bon, j'en ai souffert des années. Vous avez qu'à aller sur le net, des fake news, sur Amanda Lear, il y en a, n'en parlons. Et donc, malheureusement, voilà.
C'est en partie pour ça que vous avez choisi ce sujet.
Moi, de toute ma vie, des fake news, on raconte absolument n'importe quoi. Et ce qu'il y a, c'est que, vous le disiez, la France est un pays cartésien, dont normalement on devrait réfléchir et dire non, ça, c'est pas possible. Mais malheureusement, je vois que de plus en plus, les gens. Est-ce qu'ils font exprès? Est-ce qu'ils ont besoin de le croire? Peut-être parce que les gens ont besoin de merveilleux.
Alors c'est ce qui est dit dans l'article, qui est très intéressant dans Futura Science, sur le site de Futura Science, c'est qu'en fait les gens, ils ont besoin de trouver un coupable qui soit chose un peu claire, un peu limpide et qui forcément les rassure. Et donc c'est en partie aussi pour ça que marche.
Mais plus c'est invraisemblable et plus ils le croient même. C'est ça qui est incroyable. On est dans le conte de fées complètement. Là. Les gens, ils croient des choses hallucinantes. C'est pas possible. Vous pouvez pas croire ça. Si, c'est écrit là. Alors, du moment que c'est écrit, évidemment, dans le journal.
Et est-ce que vous avez un peu des croyances comme ça, parfois, que vous...
Moi, je ne crois plus à rien. Non. Les discours des politiques, etc. Vous savez, même dans le milieu de la musique, moi, quand j'ai commencé à chanter, il y avait des groupes qui ne chantaient pas. Ils faisaient semblant. On les engageait parce qu'ils étaient photogéniques, mais en fait, la musique, c'était en studio des choristes qui l'avaient enregistré. Il y avait un groupe, les Milli Vanilli, Placy Bertrand, le premier Eldis. C'est pas eux qui chantaient. Et donc, on était dans les fake news, vous imaginez. Donc, on vous fait croire n'importe quoi.
À la fin de l'article de Futura Science, le journaliste scientifique dit qu'il y a plein de choses à faire, que les journalistes peuvent faire des choses, les décideurs politiques également. Et puis il finit par dire que ce qui marcherait bien, ça serait de réduire les inégalités sociales parce qu'elles sont des sources de méfiance envers les élites. Et vu comment les inégalités sociales ont explosé ces deux dernières années, on peut supposer que c'est pas tout de suite que les gens vont arrêter de croire à peu près n'importe quoi.
Ils sont pas à n'importe quoi. Non, vraiment, je vous assure, c'est...
Oui, mais c'est pas de leur faute. Enfin, tout est bien installé pour que les gens croient à peu près n'importe quoi.
On a beau leur montrer par A plus B que vous voyez, c'est pas possible, c'est faux. Non, oui, mais ils croient dur comme fer. Non, mais moi, je vous dis que parce que j'ai une cousine qui connaît un tel qui lui a dit que c'est tout ça, ça vient du Qatar. On sait pourquoi ça vient du Qatar.
Parce que bon, ils ont joué aux fléchettes sur un map monde et puis ils ont trouvé le Qatar. Donc, on serait passé de je pense donc je suis à je crois donc je suis.
En gros, ça fait ça.
Ça fait un peu ça, Amanda Lear. Je vous présente aussi Aymeric Lomprey. Bien sûr, qui trépigne, bien sûr.
Bonjour à tous, vous allez bien ?
Oui !
J'ai rien entendu !
Oui,
on va bien. Oui, on est bien. On est bien, là. Regardez, on est bien, on est au chaud. Charline, elle est revenue, c'est trop bien. On a bien mangé ce midi, hein ? Et qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Dites-moi. Non, je vais essayer de deviner. C'est bon, j'ai deviné. Moi, ce midi, j'ai mangé un croque-madame. C'est comme un croque-monsieur, sauf qu'il y a un œuf, voilà, et que tout le temps, il rate dans ton assiette, et à chaque fois, t'as envie de le manger, il dit, non, j'ai mal à la tête, me touche pas, t'as du doliprane, je vais aller sur Vinted, vas-y, on appelle ma mère, calme-toi, ça va bien se passer, petit croque-madame. Non, mais ça m'a saoulé, j'ai fait la Saint-Valentin tout seul. Ça te fait marrer? Non, mais j'arrive pas à trouver l'amour. Enfin, si, j'arrive à trouver l'amour, mais juste après, je trouve encore l'amour, et en général, ça plaît pas à l'amour qui est juste avant. Alors, l'amour qui est juste avant, il dit Eh oh, je vois bien qu'il y a d'autres boîtes de doliprane à côté de ma boîte de doliprane. Et du coup, je suis malheureux. Alors, je me réfugie dans le travail. Moi, c'est boulot. Je suis un bourreau de travail. Et ça paye, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la chronique que j'avais fait le mois dernier.
Non.
Putain, mais si, c'est grave, tout le monde s'en branche. C'est vraiment une usine à chronique. Quoi. Le contenu. C'est hyper dur de faire une chronique par semaine. Une bonne chronique. Je précise parce que Guillaume, il est là, c'est facile. Alors, c'était une chronique sur l'optimisme. Ça s'appelait Chaque jour est une fête. Et ça a tellement buzzé que c'est remonté jusqu'aux oreilles de Gérard Darmon. Oui, maintenant, lui, il veut créer le PDO, le Parti de l'Optimisme. C'est un extrémiste du bonheur. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de voir le bon côté des choses quand t'as été payé pour jouer dans Bienvenue à bord que quand t'as payé pour voir Bienvenue à bord. Alors, il n'a pas fait que des navets. Hein. Il a fait La Cité de la Peur, Le Cœur des Hommes. Et là, il est en train de tourner un remake de Titanic. Il fait le bateau. C'est un naufrage, Gérard. C'est un naufrage. Il y a deux semaines, il s'est fâché avec Edoui Plenel. T'sais, il était là. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez là à enquêter comme des espèces de petits journalistes là. Faites comme CNews. Il adore CNews. Gérard, il a dit Pascal Praud dans la vie, il est super sympa et intelligent. Waouh! C'est plus de l'optimisme, c'est de l'inconscience, là. Mais ça se trouve, il a raison, Pascal, peut-être qu'il a une maladie. En fait, il est super tout le temps, mais dès qu'il est devant une caméra, ça devient un gros con réac, quoi. Tu sais, il est là, tenez, monsieur l'SDF, prenez cette soupe, mais ne tardez pas trop, car je dois dans un refuge, apporter toutes ces couvertures. Pascal, ça tourne. Rends-moi cette soupe, va te faire enculer! Fallait bien travailler à l'école! Le grand remplacement! Le réchauffement climatique! Laissez-moi rire! Il fait 13 degrés à Versailles! Vive les JO, la Coupe du Monde au Qatar! C'est bon, là, Pascal? Vizorek, il a la même maladie. Mais lui, c'est l'inverse. Ce matin, on en parlait encore. Il me disait, j'en peux plus de cette maladie. Va me chercher un café, grosse merde. Et c'est fou. Non, mais il y a plein de gens, au plus ils vieillissent, au plus ils penchent à droite. C'est Robert Hue, Cohn-Bendit, Taubira. Et là, Jordan Bardella, il a 26 ans. T'imagines, à 60 ans, qu'est-ce que tu fais, Jordan? J'épluche un arabe. Et peut-être qu'à un moment, t'es tellement de droite que tu tombes de l'échiquier politique, quoi. T'sais, il est où, Jordan? Bah, je sais pas, il était là il y a une minute. Bah, va le chercher, Marine. Ouais, ça va, c'est bon, j'y vais. Ouais! Et elle est où, Marine? Je sais pas, elle était là il y a une minute. Bah, va la chercher, Valérie. Ouais, ça va, c'est bon, j'y vais. Ouais! Elle est où, Valérie? Mais qui êtes-vous? Je suis Jean Lassalle. Mais non, et si, tout le monde croit que je suis sympa parce que j'ai un gros nez, mais je suis un pote d'Éric Zemmour. Elle est pénible, cette chronique. Hein. Elle est pénible. Mais je pense que le mieux, c'est que j'arrête de me réfugier dans le travail et que je me trouve une meuf avant de devenir de droite. Donc, les filles qui nous écoutent, si vous êtes intéressé par un garçon bien charmant, dynamique et qui a plein de projets, écrivez à Alex Vizorek pendant qu'il est à l'antenne. Et pour celles qui sont pas trop difficiles, vous pouvez bien entendu m'écrire à la maison de la radio. Merci de m'avoir écouté.
Merci Émeric Lomprey.
De rien.
Mais qu'on aille boire un verre après.
Oui.
Émeric, vous venez de faire un appel, ça tombe bien. Si vous habitez Vittel, vous pourrez voir Émeric Lomprey sur scène le 4 mars.
Oui.
Et Lomprey Vittel dans la même phrase, c'est chaud. Amanda Lear, les filles qui ne se maquillent plus en font un acte politique. Mais en Afghanistan, se maquiller, c'est résister. Et potentiellement se faire zigouiller aussi. Pour Alexandria Ocasio-Cortez, la sénatrice américaine, se maquiller, en revanche, c'est politique. Et c'est avoir la politique dans la peau aussi. Et quid du corps comme arme politique.
Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi.
D'accord. La phrase... Elle m'expliqua qu'elle appliquait à sa vie le vieux slogan 68-art, « Faites l'amour, pas la guerre ». Depuis plusieurs années, elle couchait avec ses élites politiques dans le but de les convertir à sa cause. Elle utilisait son corps comme une arme de destruction massive des fachos. Le terme de facho s'entendait chez elle dans un sens très large.
Parce que moi, je peux faire des grandes choses avec mon cul, tu sais. Mais regarde, quand tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, je promets.
Sarah Forestier, Jacques Gamblin, dans Le Nom des gens, le film de Michel Leclerc. Amanda Lear, vous qui avez peint toute votre vie qui est peint,
oui,
est-ce
oui,
qu'on se maquille mieux quand on est peintre?
Oui, 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 absolument. Il faut tout le temps se maquiller. Moi, j'adore le maquillage. Autant j'ai quelques incertitudes côté chirurgie esthétique, mais avec le maquillage, vous pouvez corriger tout ça. Je trouve qu'avant, vous savez, les hommes se maquillaient. Au temps de Louis XIV, les hommes, les femmes à la cour étaient tous poudrés, maquillés. De tout temps, ils sont maquillés. Les Égyptiens, les Grecs. Les... Donc moi, je suis tout à fait pour le maquillage.
Mais est-ce que c'est pas une fake news de visage?
Pardon ?
Est-ce que c'est pas une fake news de visage ?
Non, non, c'est pas une fake news, mais on peut l'améliorer, disons. C'est plutôt du Photoshop, voilà. Et franchement, je trouve que... il faut savoir se maquiller aussi. Là, elles sont maquillées comme des pintades. Vraiment, c'est dramatique.
Ne me regardez pas.
mais bien maquillée, je trouve que c'est un art. Ouais. Et comme on parlait de peinture, justement... Moi qui aime beaucoup la peinture, jouer avec les couleurs, et les dégradés, on veut creuser un peu, on sait qu'il faut mettre du plus foncé, on veut mettre quelque chose en relief, on met du plus clair.
C'était le tuto maquillage d'Amanda Lear. Chez les hommes, est-ce que David Bowie était mieux maquillé que vous?
Non, il était beaucoup plus maquillé que moi, et puis surtout il se démaquillait pas. C'est ça qui était chiant, c'est vrai. Parce que les hommes se maquillent, mais ils savent pas que il faut vraiment se démaquiller. Nous les filles, tous les soirs, on se démaquille bien, on se met une crème hydratante et tout. Lui, il se démaquillait pas, il me salopait l'oreiller, évidemment, parce que au lit, plein de fond de teint sur le.
Et voilà, une gloire tombe.
Attendez, laissez-la finir, s'il vous plaît.
Mais c'est vrai, et donc, c'est dommage, parce que ça fait pas de bien à la peau. Mais c'est vrai qu'il se maquillait. Alors, il avait engagé une maquilleuse, qui s'appelait Barbara Daly, qui faisait très jolie, la pochette de son disque, où il s'est très bien maquillé, je crois, il est avec un mannequin. Et là, elle l'avait maquillé. Puis quand j'ai tourné avec lui aussi pour le Midnight Special, c'est elle qui nous avait maquillé. Très bien maquillé, je dois dire. Ouais. Non, il avait trouvé le moyen de se mettre en valeur. Parce que j'assure que démaquiller complètement, c'était pas terrible.
Hein. Mais non, c'est pas vrai.
Non, oui, c'est vrai. Bon, il
dites
avait...
pas ça.
Un œil oui, un œil non, il avait une dent sur deux, mais je veux dire, bien bien arrangé.
Déjà, il avait les yeux... À mon avis, il avait les yeux verrons, donc est-ce que quand on a les yeux...
Non, il avait eu un coup de dent à l'école, on lui avait foutu un coup de poing, donc il avait un œil... comment ça s'appelle la rétine
Oui, décollement de la rétine.
Voilà, donc ça. C'était tout vert. C'était
donc ça influence foncé. Le maquillage.
Et l'autre clair. Et donc, ça, il s'était dit, tiens... Il faut qu'au contraire, je mette ça en valeur. Il aurait pu mettre une lentille de contact, un truc comme ça. Pas du tout. Il voulait justement accentuer ce côté étrange venant d'une autre planète. Donc, ouais. Il s'était rasé les sourcils, avait les cheveux comme Régine.
Ça y est. C'était Régine.
Et c'est la conclusion. C'était très excitant. Non, c'est assez excitant.
On va rester sur cette note, alors. Avant de lire, il y a Juliette Arnaud qui a préparé pour vous un questionnaire de Parjupit Proust.
Alors, sur l'échelle qui va de 0 à 10 des queens les plus célèbres, 10 tout en haut étant Queen Elizabeth II, 70 ans de règne, 0 étant la femme du roi Lear qui était reine mais tout le monde s'en foutait puisqu'on s'en foutait du roi,
Madame Lear, oui.
À combien est la Queen Lear?
Ben non, il y a d'autres queens, il y en a plein. Vous savez, quand on fait du disco, dès qu'on avait un succès, on était la reine du disco. The Disco Queen. Et on était toutes des Disco Queen. Grace Jones était la Disco Queen, Gloria Gaynor était la Disco Queen, on était toutes Disco Queen. Donc, du coup, le mot Queen est devenu très, très populaire.
Vous voulez pas me donner un chiffre?
Je vois pas. Pour moi, la vraie queen du disco, c'est Gloria Gaynor, hein, de toute façon. Là, si on veut parler de musique, c'est Gloria Gaynor.
Il y a des gens mystérieux à propos de l'orage. Du ou de laquelle vous sentez-vous la plus proche? Karl Lagerfeld, Ariel Dombal ou E.T.
Qui, la dernière?
E.T. L'extraterrestre. E.T.,
on ne sait pas quel âge.
On ne sait pas du tout quel âge a E.T. Ouais, on ne saura jamais.
E.T., il a des millions d'années, donc, je suppose.
Ah, on ne sait pas.
Oui, mais précisément, on ne sait pas.
Ouais. Ah, mais je suis plus pour ton proche d'E.T. alors.
Allez, d'accord. Par vous, quelle autre égérie à franges préférez-vous? Jane Fonda, Nico ou Marianne Faithfull?
Ah, moi j'adore Jane Fonda, je trouve qu'elle se démerde très bien. Hein. Et c'est un modèle pour beaucoup de femmes pour bien vieillir, surtout rester très mince parce qu'elle était très sportive.
Et très engagée.
Une coupe de cheveux très dynamique. Et après, vous avez dit Dombal et
Non, Nico.
Ah, Nico,
bien sûr.
J'ai connu Nico d'ailleurs.
Non.
Nico, oui, bien
j'ai
sûr.
J'ai connu Nico, putain.
Pour rappeler qui
parce que moi, quand j'étais
Nico, c'était une des chanteuses du Velvet.
J'étais dans une boîte à New York qui s'appelait Max Kansas City avec Andy Warhol. Et là, ils étaient là tous les soirs, Andy Warhol. Il y avait Paul Morrissey, il y avait Malanga, tout ça. Et il y avait Nico. Et Nico, elle m'a dit, You can come with me. Elle m'a proposé d'habiter chez elle. Un petit peu. Donc, on est devenus très copines avec Nico. Et dans mon nouvel album, justement, pour rendre hommage à Nico, je chante cette chanson qui s'appelle Striptease. Et c'était un film qu'avait tourné Nico, dans lequel elle jouait une stripteaseuse, et comme elle ne pouvait pas la chanter cette chanson de Gainsbourg, c'est Gréco qui s'y est mis, et Nico a fait le playback de Gréco.
Petite dernière.
Tout ça, c'est pour en venir à Nico. Voilà.
Quelle phrase assez provoque pourrait être la vôtre? Wallis Simpson, quand elle dit « On n'est jamais assez riche et on n'est jamais assez mince », ou Karl Lagerfeld, quand il disait « Être heureux, non, je ne suis pas si ambitieux ».
Je préfère la guerre. Non, c'est assez immoral, la citation de la Duchesse de Windsor. C'est assez immoral, quand même.
Mais c'est pour Juliette. Merci, Amanda Lear, d'avoir passé ce moment.
Vous savez, Karl Lagerfeld, il était très catégorique. Hein. Il disait, un jour, il m'a dit.
On voit bien un peu.
Le sexe après 25 ans, c'est dégoûtant.
Amanda Lear, donc. Queen Lear, ce sera à voir sur Arte le vendredi 25 février, vendredi prochain, à 22h25. Demain, à 19h45, à la Gaîté Lyrique, en compagnie de Jean-Paul Gaultier et de
Gero Van Boom. Oui, Jean-Paul va venir.
Et votre album, bien sûr, Tuberose, qui est toujours disponible, le 20e album. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain, vendredi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la semaine m'a paru hyper courte.
Déjà, on n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Moi pas.